Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette émission sortée sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM et sur internet radiocampustour.com. Très heureux de vous retrouver en ce jeudi de semaine enregistrée, d'émission pré-enregistrée. Nous sommes, il me semble, jeudi 4 mars, si je reprends mes notes. Et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Vous l'attendez sans doute avec impatience car aujourd'hui on écoute les deux épisodes finaux, les deux dénouements des séries qu'on écoute depuis le début de la semaine. Si vous ne les avez pas entendus et que vous débarquez sur Radio Campus Tour, pas de souci, vous comprendrez de quoi on parle. C'est de très beaux reportages très bien réalisés, l'un par Radio Parleur, l'autre par Arte Radio. Connaissiez-vous Arte Radio? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous y rendre et à découvrir toutes les créations qu'ils font. J'en diffuse régulièrement dans Sortez, on en diffuse aussi le week-end, il me semble, sur Radio Campus Tour. Mais il y a de très beaux contenus à découvrir à côté de ça. Les deux contenus du jour, c'est donc Radio Parleur, Larzac, des femmes face à l'armée, une série de 3 épisodes sur la place et le rôle des femmes dans la lutte contre le camp militaire. Et l'autre série, ça s'appelle Tout fout le camp, c'est une création, donc je vous l'ai dit, d'Arte Radio et de Manon Prigent. Et donc l'épisode final, l'épisode 4 de Tout fout le camp s'appelle Jeunes de toutes les époques, unissez-vous. Un message d'espoir qu'on va relayer, dont on va parler dans quelques minutes sur Radio Campus Tour. Mais tout de suite, on se penche du côté de Radio Parleur. Pour ce reportage, Larzac des femmes face à l'armée, je vous ai dit une série de 3 épisodes sur la place et le rôle des femmes dans la lutte contre le camp militaire. L'épisode 1, c'était Vivre la lutte, l'épisode 2, Féminisme et ruralité, et l'épisode 3, Héritage et mémoire. C'est une série de Malika Barbeau pour Radio Parleur, et on écoute ça tout de suite sur Radio Campus Tour.
Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
J'ai écrit l'histoire du Larzac parce que, en fait, je voulais pas la perdre. Tellement la solidarité avait été forte.
Voilà, c'est le bien commun, quoi. Et les choses m'appartiennent pas. Il faut en prendre soin pour les autres, pas seulement pour soi.
Je sais pas, il y a quelque chose qui nous tient à l'âme, qui nous tient au cœur, qui nous...
Ça les a transformés, cette lutte, forcément. Et ceux qui sont revenus après, ils sont dans ce sillage de cette transformation.
Dans le premier et deuxième épisode de cette série, des femmes racontaient leur place dans la lutte du Larzac et le contexte des années 70. Cette fois-ci, elles abordent ce qu'il reste de cette période, à la fois matériellement, avec les livres, les journaux, mais aussi à travers de nouvelles dynamiques sur le plateau. Christiane Burguière, Solveig et Anne-Marie Le Thor poursuivent leur récit. Morgane Blanc, une jeune agricultrice à Montredon, démarre le sien. Larzac, des femmes face à l'armée, épisode 3, héritage et mémoire.
Donc bah là, on est dans la bergerie. Ça, c'est les brebis qu'on trait. Là, c'est la grange où on entrepose donc le stock de foin et de paille. Quand je suis arrivée la première fois, c'était, je crois, en l'été 2005. Et j'étais en randonnée, en fait. J'ai acheté une carte, j'ai vu ce cause, j'ai dit, tiens, moi, j'aime bien la montagne, je vais aller voir. Et donc, j'ai commencé à monter sur le cause. Et c'était un été très sec, il faisait très chaud. Alors, j'avais mon gros sac à dos avec la tente, tout ça. Et arrivée en haut, donc demi haut, j'ai fait toute la montée à pied. Arrivée en haut, je me suis dit, non, mais en fait, je vais demander de l'eau. Parce que j'avais plus d'eau dans ma gourde, et dans ce village-là, et puis je vais redescendre, et je vais passer la semaine au bord du Tarn, là, comme ça je pourrais me baigner, parce que là, c'est vraiment trop sec. Donc je suis arrivée à Potensac, c'était marqué un petit puits, alors je cherchais le puits, bon, et puis je tombe sur un monsieur, donc c'était Léon Maillet, et du coup, il me dit « Ah ben non, il n'y a pas de puits ici, bon ben viens à la maison boire le café ». Premier café de ma vie d'ailleurs, parce que j'aimais pas ça, mais j'ai pas osé lui dire non, donc... J'ai bu mon premier café. Et là, il a commencé à m'expliquer, parce que lui, il adore parler de la lutte. Enfin, voilà. Puis en plus, il est rigolo, il parle bien, donc ça passe bien. Il a commencé à me parler de l'histoire, et je connaissais pas du tout, quoi. Donc, voilà. Puis il me dit, non, mais il faut absolument que tu ailles. Là, ma salariée, elle travaille, elle loge au camping du Cune. Donc, elle te prend ton sac, t'y vas à pied. Et de là, tu vas pouvoir te balader, tu pourras aller par-ci, par-là. Faut aller voir Montredon, c'est un joli village, etc. Du coup, après, pendant mes balades, je suis venue à Montredon acheter du fromage. Donc, j'ai bien aimé le fromage. Et quand je suis rentrée chez moi, je me dis, tiens, je vais appeler pour savoir s'il prendrait pas des stagiaires, parce que j'ai bien aimé le lieu. Mais voilà, enfin, tout ça pour dire que je connaissais pas du tout l'histoire avant d'arriver ici, quoi. Et après, quand je suis venue en stage, ben, bien sûr, après, on m'a raconté un petit peu l'histoire, c'est là que j'ai découvert.
Le Larzac restera, notre terre servira à la vie. des moutons, pas des canons, jamais nous ne partirons. De gré, de force, nous garderons l'Arzac. De gré, de force, nous garderons l'Arzac.
En 50 ans, les choses ont bien évolué sur ce petit bout de terre aveyronnais. En 1971, au moment du début de la lutte du Larzac, la famille nucléaire est presque le seul modèle et les hommes paysans sont chefs d'exploitation. Solveig et Anne-Marie Le Thor reviennent sur cette évolution.
Oui, en trois générations, on voit comment les choses évoluent.
L'homme était dans la fonction agricole et la femme était dans les premiers temps. Après, les couples ruraux qui se sont installés, les deux étaient dans l'agriculture. Et maintenant, on constate des fermes du Nord, c'est la majorité sont femmes. Ce sont des paysannes qui mènent l'exploitation. C'est quand même un sacré renversement. Hein. Au Nord, je crois qu'on en a compté 7, 8 chefs d'exploitation, femmes.
Les années 50, la femme est au foyer. Les années 70, elle se libère, elle va trouver du travail pour apporter un salaire. Donc elle est secrétaire, effectivement, infirmière. Et puis les années 2000, les débrouettes, eh ben, les femmes, elles conduisent des tracteurs.
Elles sont chefs d'exploitation.
Elles ne sont pas employées agricoles, elles sont chefs d'exploitation. Et là, c'est dans cette nouvelle génération qui arrive, là, dans ces dernières années, c'est très amusant de voir toutes ces ingénieurs agronomes qui prennent... Et que ça ne choque pas. Bien sûr qu'une femme peut conduire un tracteur, qu'elle peut gérer une exploitation. Et là, c'est vrai que toutes les fermes, pour l'instant, sont reprises essentiellement par des jeunes filles, par des femmes. Et on voit bien l'évolution de ces trois générations. Et sans que ça choque, c'est vraiment plus un problème maintenant. Oui, une femme peut être chef d'exploitation, ça ne pose aucun souci.
Après, ici, c'est quand même très particulier, hein, justement, parce qu'on est sur les terres de la société civile des terres du Larzac. Donc il faut savoir que la majorité des gens ne sont pas du cru, comme on dit, quoi. Donc la majorité des gens, en tout cas, qui sont sur ce territoire-là, il y a beaucoup de néo-ruraux, il y a aussi des gens qui sont là, hein, depuis des générations, mais du coup qui sont plus ouverts parce qu'ils ont eu l'habitude de voir arriver des néo-ruraux. Dans d'autres campagnes, moi j'ai des amis qui se sont installés, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on te juge beaucoup, on dit mais lui il vient pas d'ici, la terre c'est quand même très particulier, donc on regarde si tu travailles bien les terres, si tu te lèves assez tôt le matin, et puis sinon on fait des remarques, enfin c'est... Voilà, ici il y a beaucoup d'ouverture, donc j'ai à aucun moment senti que j'étais jugée par rapport au fait que j'étais une femme, parce qu'en plus il y a d'autres femmes chefs d'exploitation dans le coin, qui sont là depuis longtemps. Donc, j'ai vraiment pas ressenti de par rapport à ça. Après, moi, je me suis installée, j'étais associée du coup avec un homme. C'est vrai que voilà, certaines personnes, notamment du cru, ça, par exemple, s'adressaient tout le temps à Damien, donc mon associé, plutôt qu'à moi. Mais c'était quand même assez rare et c'était certaines personnes seulement, quoi. Et après, voilà, maintenant, en plus, je travaille avec Clémentine, donc on est deux femmes. Et je sens pas du tout de jugement, même au contraire, les gens disent « Ah bah c'est super, deux femmes !» Enfin voilà, c'est là en fait que j'ai réalisé, je me suis dit « Ah oui, c'est vrai quand même, on est deux femmes, c'est rare !» Et maintenant, depuis quelques années, on peut être en GAEC aussi, mari-femme, marié-femme. Ça a facilité l'installation de femmes qui étaient majoritairement, on va dire, conjointes collaboratrices ou aides familiales, du coup, avec aucun droit. Enfin, conjointes, surtout aides familiales. Donc là, ben, toute leur vie, elles vont travailler avec leur mari, faire manger à midi, etc. Et puis, arrivées à la retraite, ben, elles n'ont rien, en fait. Alors que là, maintenant, si elles sont en GAEC associées avec leur mari, elles ont les mêmes droits, les mêmes cotisations sociales et du coup, droit à une retraite.
Sur le Larzac, en 1981, se pose la question du territoire. Au cours de la lutte, des centaines de personnes ont soutenu les paysans et paysannes en achetant quelques mètres carrés de terre. Par cette action, ils et elles rendaient les expropriations beaucoup plus complexes. Aujourd'hui, ces terres sont gérées par le groupement foncier agricole GFA. Pour les autres terres, la Société civile des terres du Larzac est créée. Le principe ? Des terres et terrains appartiennent à l'État. La société civile est alors chargée de la gérance.
Donc sur la ferme, il y a deux maisons qui font partie du fermage. Donc il y a toutes les terres, nous on a toutes les terres qu'on a, il n'y a pas du tout de propriété privée. C'est majoritairement SCTL, il y a aussi un petit peu de terres GFA. Et les deux fermes qui vont avec la, deux fermes, les deux maisons qui vont avec la ferme appartiennent aussi à l'État et sont gérées par la Société Civile des Terres du Larzac. Donc le principe en fait des fermes ici, c'est que on a un bail emphytéotique, c'est-à-dire un bail jusqu'à l'âge de notre retraite. Et donc à l'âge de la retraite, on doit quitter la ferme et les maisons. Et la SCTL, la Société Civile des Terres du Larzac, s'occupe de trouver des repreneurs, quoi. Moi, ce qui me plaisait, qui me plaît toujours, et puis ben, j'espère que ça va continuer à me plaire, mais ça, je ne peux pas savoir, c'est que voilà, c'est le bien commun, quoi. C'est cette idée de venir vivre sur un endroit et travailler des terres qui sont pas à moi, donc en prendre soin pour les générations d'après. Ça me plaît. Je sais que je suis de passage sur cette terre, et puis après il y en aura d'autres, et les choses m'appartiennent pas. Il faut en prendre soin pour les autres, pas seulement pour soi. Et c'est vrai que ça met une ambiance aussi. Voilà, il y a beaucoup d'entraide, du coup, il y a un esprit d'entraide qui existe aussi ailleurs. Hein. Enfin, je ne veux pas non plus dire qu'ici c'est idéal et qu'ailleurs c'est pas bien. Pour moi, d'abord, la solidarité, c'est la solidarité paysanne. Et puis après, ici, c'est vrai qu'il y a cet héritage, surtout des anciens qui ont fait beaucoup de choses ensemble, qui ont fait beaucoup de réunions, qui ont gardé ce lien-là, quoi, d'aller s'aider, s'entraider, parce qu'ensemble, on est plus forts, etc. Donc les anciens, ils ont gardé ça, et puis les jeunes qui sont arrivés après, ils ont été dans le mouvement aussi, quoi. Et là, il faut quand même avoir en tête, c'est l'histoire de la lutte, parce que pour moi, il y a l'antimilitarisme, bien sûr, et aussi le souhait de garder une campagne vivante, cette histoire de bien commun. Donc, pour moi, c'est très important de l'expliquer aux gens qui arrivent s'installer. Et d'ailleurs, ça, c'est le rôle des gérants de la SCTL. Quand il y a quelqu'un qui arrive, en général, ils le convoquent et puis ils le font un petit historique. Voilà comment ça se passe. Voilà.
Donc, des jeunes peuvent venir s'installer sans s'endetter. Et ça, il n'y en a pas beaucoup d'endroits en France où un jeune couple, enfin un jeune, peut venir s'installer sans être criblé de dettes. Et ça crée quand même, je crois qu'il y a 25 lieux, 25, enfin, peut-être 22, 23 ou 27, je ne sais pas, mais on va dire 25 de fermes qui ont été reprises comme ça. Alors, ce n'est pas repris par des octogénaires, hein, c'est repris par des plus jeunes qui, eux, ont besoin de faire du sport, qui ont besoin de bibliothèques, qui ont besoin de musique, enfin il y a tout. Donc c'est une espèce de boule de neige. C'est un territoire, contrairement aux territoires malheureusement ruraux qui sont désertifiés, qui lui a, je crois, au moins 25% de, qu'est-ce qu'on pourrait dire, de valorisation, enfin qui est valorisé.
Mais c'est le seul territoire en France où il y a plus d'exploitations agricoles aujourd'hui qu'il y en avait dans les années 70. Aujourd'hui, les fermes, on les ferme un peu partout. Et ici, non. Ici, il y a des jeunes qui viennent reprendre des anciennes exploitations avec ce pari un peu étonnant aujourd'hui de dire, eh bien non, quand quelqu'un s'en va, on n'agrandit pas l'exploitation du voisin. Au contraire, on divise parce qu'il faut qu'on soit plus nombreux de façon à vivre ensemble, à développer une vie associative, culturelle, sportive. Donc c'est un pari un peu fou et un peu contre-courant actuel.
Mais ça marche.
Mais voilà, on prouve que c'est possible qu'on le fait. Et aujourd'hui, le causse du Larzac, c'est le causse le plus peuplé de l'ensemble des grands causses. Parce qu'il y a cette dynamique qui a été engendrée par les paysans du Larzac. Et en 81, c'est vrai qu'ils auraient pu dire « Oh, on a gagné, bon ben rentrons, gardons nos brebis entre nous. » Mais comme ils l'expliquent très bien, ils ont reçu tellement de gens de l'extérieur qui sont devenus donner tellement de temps et d'énergie qu'ils se sont sentis en dette. Ils ont dit « On est obligé de rendre tout ce qu'on nous a donné comme temps, comme énergie. » Ils sont en dette de solidarité. Et donc c'est pour ça qu'après 81, ils ont commencer à aider les Palestiniens, les Japonais, aussi tous les essais nucléaires. En fait, ils se sont vraiment engagés. Et comme une reconnaissance, en fait, hein, tout simplement, un retour de solidarité.
Polynésie,
voilà. Retour de solidarité. Donc, ils sont pas restés. Ça les a transformés. Ça les a transformés, cette lutte, forcément. Et ceux qui sont revenus après, ils sont dans ce sillage de cette transformation. Et donc, il y a un sillon là qui se creuse, et des petites graines qui germent. Et aujourd'hui, nous, on a les récoltes, on a la moisson.
Dans de nombreux esprits, la lutte du Larzac demeure comme un exemple de résistance à l'État et au militarisme. Des parallèles ont pu être évoqués avec Notre-Dame-des-Landes, bien que les modes d'action et contextes soient différents. Les années 70 ont donc laissé des traces, un héritage qui ouvre la porte à de nouvelles dynamiques. Aujourd'hui, la mémoire est transmise oralement, avec les souvenirs des anciens et anciennes militantes. mais elle est aussi transmise dans les livres, les films, les journaux.
Ils ont jauni les journaux. Alors, 75, le tout dernier, le numéro 1. Voilà, juin 1975. Là, c'est Élie Jonquet de la Blaquière et on est en train de creuser la route nationale pour faire passer l'eau d'un côté à l'autre de la route. Donc, évidemment, il y a les flics qui nous empêchent. On creuse la moitié de la route, on laisse passer les voitures de l'autre côté. Mais les flics sont là, on s'y est repris à 3 fois. Gardarem Lou Larzac, c'est le journal des paysans et des habitants du Larzac qui a été créé en juin 1975, parce qu'on avait envie d'écrire nous-mêmes ce que nous vivions. On n'était pas toujours d'accord avec les journalistes qui ne racontaient pas exactement ce qu'on vivait. Donc voilà, on a créé notre journal. Alors à l'époque, on faisait un mensuel et maintenant c'est un bimestriel, c'est-à-dire un journal tous les 2 mois. Parce qu'il y a moins d'événements que ce que nous avions pendant la lutte. Depuis 1978, c'est-à-dire au retour de la marche à pied sur Paris, j'ai dit que ça m'intéressait de participer au secrétariat de ce journal. Et puis un jour, des personnes qui écrivaient dans le journal m'ont dit « Mais il n'y a pas que le secrétariat, vous pourriez écrire. » Et puis petit à petit, ça faisait toujours son chemin. Alors je suis allée aux archives de Millau, j'ai compulsé des archives, j'ai trouvé des choses intéressantes et d'autres où il y avait des erreurs que les journalistes peuvent faire aussi parce qu'ils écrivent très vite et je ne sais pas comment ils arrivent à se retrouver, mais bon, c'est un métier. Et puis après, j'ai écrit pendant plus de 20 ans une rubrique qui s'appelait « Il y a 20 ans ». Et en 1983, j'écrivais ce qui s'était passé en 1973. Mais je crois que j'ai repris, à travers cette rubrique, un peu toute la lutte. Donc voilà, juillet, août, des Larzac partout. Des Larzac partout, ça veut dire que c'était des petites luttes qui se greffaient à la nôtre et qui s'appelait qui on appelait aussi Larzac, quoi. C'était la référence, le Larzac, voilà. C'est plus des choses qu'on regarde, mais si on a besoin, on va faire des recherches. Mais il y a aussi au local du journal, il y a tous les journaux, évidemment. C'est pour ça que c'est important d'avoir des archives. On ne sera pas toujours là pour raconter.
Et là, tu me dis pas, ouais, mais comment t'as fait pour faire des crêpes
Tous les mercredis d'été à Montredon, le hameau où habite Morgane Blanc, un marché paysan rassemble des centaines de personnes. Juste à côté, une ancienne bergerie laisse désormais la place à une librairie. À l'intérieur, des étalages emplis de livres sur le monde rural, les combats et les luttes sociales. Sur l'une des couvertures, on distingue un titre évocateur. Gardarem, chronique du Larzac en lutte.
En fait, c'est pas un roman, hein, c'est une chronique, donc j'ai commencé au début. Je raconte, alors je présente des familles anciennes du Larzac qui étaient là avant le projet d'extension du camp et des familles nouvelles qui sont arrivées après et qui ont participé à la lutte. Ça commence comme ça. Et puis, voilà la table des matières, donc... Il y a des témoins aussi dans mon livre à qui j'ai demandé, parce que je voulais ouvrir des fenêtres. Je ne voulais pas que ce soit que notre point de vue, en tout cas le mien, mais je voulais aussi qu'il y ait d'autres personnes qui donnent leur témoignage, parce que ça avait une force, voilà. Donc je détaille toute la chronologie de la lutte jusqu'à la victoire. Je pense que la victoire, c'est là, le gouvernement abandonne le projet, et puis après il y a l'avenir, donc. Donc là, ces rencontres internationales pour la paix, ça s'est fait dans une ferme au Pinel, ici sur le Larzac, et c'est là qu'il y avait les délégations japonaises. Donc après, il y a le Larzac au Japon, le Larzac à la Kanaki, pour montrer l'ouverture à l'extérieur. C'était des moments forts. Nous, à la Kanaki, on ne l'a pas vécu, mais voilà, il y a un témoignage de ceux qui l'ont vécu. J'ai écrit l'histoire du Larzac parce qu'en fait, je ne voulais pas la perdre. Tellement la solidarité avait été forte, je me disais, j'ai toujours eu ce rêve. Je crois au lendemain de la victoire de Mitterrand. Bon, après, il fallait savoir s'il maintenait toujours sa promesse quand même. Hein. Il avait dit qu'il rendrait la terre aux paysans. Et effectivement, il a tenu sa promesse. Et donc, moi, je me disais, mais on ne va pas redevenir comme on était avant la lutte. Ce n'est pas possible. C'était trop fort qu'on se rende comme ça. Et donc je me suis dit, bon, mais de toute façon, moi j'écrirai l'histoire parce qu'au moins je continuerai de la vivre, ou je la revivrai. Une histoire comme ça, qui est en plus victorieuse, c'est important de la partager. Déjà, c'est un remerciement pour tous ceux qui nous ont soutenus aussi. Et puis la mémoire, c'est important de l'écrire si on peut. Je ne savais pas en le commençant si j'y arriverais, si serait édité encore moins. C'est important de l'écrire pour nos enfants, pour nos petits-enfants.
Pour nous, d'avoir vécu ça, c'est quelque chose qui est vraiment, enfin, je vais dire exceptionnel, oui, mais quel cadeau d'avoir pu vivre ça, parce que ça nous a transformés aussi, plus ou moins, enfin, oui, plus que moi. Et puis, je ne sais pas, il y a quelque chose qui nous tient à l'âme, qui nous tient au cœur, qui nous...
Et c'est la transmission aussi, le fait que ça a existé et que ça continue. Ça, c'était extrêmement bienfaisant à l'âme, comme tu dis, au cœur, d'avoir vécu cette histoire-là, de savoir qu'elle n'est pas terminée, qu'elle se transmet, qu'il y a d'autres peuples en lutte qui viennent ici aussi se renseigner comment vous avez fait, comment c'est possible. Donc ça fait valeur d'exemple,
oui.
De preuve que c'est possible, et puis de vivre encore aujourd'hui sur cette terre de Larzac, mais quelque chose de magique, c'est vrai. On a de la chance, on a une chance extraordinaire.
Et moi, je constate depuis, on va dire, 8-10 ans, tout un petit peuple de couples, de jeunes, célibataires ou en couple, qui sont là et qui continuent. Et ça, moi, je trouve qu'on peut partir, enfin, je peux mourir, je ne vais pas dire tranquille.
Pas tout de suite.
Pas tranquille, mais...
Oui, la succession est là.
Voilà, c'est... Alors, ils s'y prendront différemment, probablement. Hein. Il y aura d'autres façons de se retrouver, Mais, les valeurs sont là. Elles sont transmises. Hein. Elles sont transmises et comment dire, ils les font leur. Voilà, ils font. Tu vois, quand je vois Morgane.
Ils se sont appropriés ces valeurs-là et ils les ont transformées avec cette génération qui n'est pas la même. Mais ces valeurs,
Sarah,
oui,
tous
ceux qui arrivent là, ils ont réussi à attraper ça et à les transformer avec la génération de ces années 2020. Mais on sent que c'est là encore, c'est fort. On a du théâtre, on a du cinéma, on a
de la musique,
des choses, voilà, de la photographie, on a des réunions, on a des conférences, on est au bout du monde et on a le monde à nos pieds pratiquement. Je trouve qu'on a une chance extraordinaire.
Exactement.
Radio Parleur, c'est
des reportages au cœur de l'actu des luttes.
Des émissions et entretiens.
Bonjour Fatima Wassak.
Pour penser les luttes.
Merci d'être avec nous sur Radio Parleur.
Bonjour.
L'hebdo Parleur.
L'argent enchanté disparaît dans les paradis fiscaux, enfin.
Votre édito satirico-bordélique.
Inventé.
Bagaille.
En fait, de l'enfer.
De la création sonore plein les oreilles. Pour aller
partout,
tout le temps. Nous avons besoin de toi.
Toi.
De toi. Et toi aussi.
Alors faites un don.
Sur radioparleur.net/don.
De retour sur Radio Campus Tour, Larzac des femmes face à l'armée, l'épisode 3, héritage et mémoire, vous venez de l'entendre, sur le 99.5 FM ou sur internet radiocampustour.com. C'était une série de Malika Barbeau pour Radio Parleur que je vous ai déjà diffusée il y a quelques semaines et que je viens de vous rediffuser. J'espère que ça vous a plu, c'est très bien fait. Et j'étais très content de vous partager ce contenu tout de suite. Eh bien, une nouvelle pause musicale dans cette émission sortée. Vous en avez l'habitude, on va écouter un artiste qui s'appelle O Sisters et... un titre qui s'appelle Moussolou, c'est tout de suite sur Radio Campus Tour. Solou aux Sisters sur Radio Campus Tour, de retour sur le 99.5 FM et sur internet radiocampustour.com pour la suite de cette émission. Cette émission, nous avons diffusé depuis le début de la semaine, car c'est une des émissions pré-enregistrées. Depuis le début de la semaine, je vous diffuse différents reportages, notamment Tout fout le camp. C'est ce qu'on a écouté depuis le début de la semaine. Chaque jour, aujourd'hui on est jeudi 4 mars, et c'est le dénouement. Tout fout le camp épisode 4, ça s'appelle Jeunes de toutes les époques, unissez-vous. Ça dure une vingtaine de minutes, c'est disponible sur Arte Radio, n'hésitez pas à aller le réécouter si vous le souhaitez à l'issue de cette diffusion. Et donc, comme à chaque époque, les jeunes se sont-ils emparés des mots pour se tailler une place dans le monde des adultes? En nous confiant leur lien intime avec le langage, entre violence et aisance, les jeunes que l'on écoute nous ont montré combien la bataille avec le langage est un enjeu intemporel. En entremêlant les voix des jeunes d'hier et d'aujourd'hui, il apparaît plus clair encore combien que plus que le temps, c'est surtout l'espace social qui détermine l'aisance avec laquelle on manie la langue. Sauriez-vous dater les extraits qui composent ce dernier épisode? Eh bien, c'est le petit jeu auquel vous participez. N'hésitez pas à nous répondre ensuite sur les réseaux sociaux de radiocampustour.com. Nous donnez votre score et puis on en parle juste après. Juste après l'avoir écouté. C'est parti, on l'écoute sur Radio Campus Tour.
Là-bas, un éducateur, il avait tort. J'ai prouvé qu'il avait tort devant tout le monde, toutes les personnes du foyer, quoi. Un jour, on a mangé, il parlait d'un truc. Moi, je m'y connaissais mieux que lui dans ce truc-là, je me rappelle plus c'était quoi. Et je lui ai mis dans son nez, quoi. J'ai mis en face de lui qu'il avait tort. Il a pas apprécié. Il m'a emmené dans la chambre, il a fermé la porte à clé dans la chambre. Il a fait, bon, alors maintenant, qui c'est qui a tort? Il m'a mis une claque. Après, on s'est battu ensemble et après, il a refermé la porte derrière moi. J'ai dit, je vais me casser, tu vois, je vais me casser du foyer, je vais revenir. Mais je vais pas revenir tout seul.
L'Institut National de l'Audiovisuel et les studios d'Arte et Radio sont heureux de vous présenter Tout fout le camp, une série documentaire de Manon Prigent.
Pour bien connaître un adulte, il faut remonter à l'enfance.
La façon dont il parle, une prestance.
Comment ça se fait qu'on a perdu cette façon de parler?
Pourquoi a-t-on toujours l'impression que les gens parlaient mieux avant? Qu'y a-t-il derrière cet avant? Et qu'est-ce que les jeunes ont à voir là-dedans? Épisode 4. Jeunes de toutes les époques, unissez-vous. Les adolescents muent. Leur voix et leur langage se transforment pour devenir ceux d'un adulte. Mais très vite, ils ont grandi et l'on se dit tout fout le camp. C'est aussi à cet âge-là que se pose la question de la légitimité. Les mots peuvent-ils les aider à se tailler une place dans le monde des adultes? Et si, plus que le temps, c'était l'espace social plus exactement, qui déterminait l'aisance avec laquelle chacun, chacune, manie la langue? Pour ce dernier épisode, mêlons leurs voix et écoutons ce que les jeunes des différentes époques veulent bien nous dire de leur corps à corps avec les mots.
Ben voilà, moi je suis jeune encore, je ne maîtrise pas non plus tout l'arsenal, le vocabulaire du français. C'est-à-dire, ouais, y a des moments où...
Je manque de mots pour expliquer certaines choses.
J'ai envie de dire un truc et je n'ai pas, pas le mot pour.
Et tu penses que ce sont des mots qui n'existent pas ou que tu ne les connais pas?
Non, je pense que je ne les connais pas.
Et dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'en viens aux mains?
Ouais, mais bon, je vais pas tout vous raconter. Une fois avec ma cousine, parce que... Avant, comment dire, elle me manipulait un petit peu, quoi. Parce que quand j'étais petite, j'étais violente, limite. Résultat, ben, j'étais pas vraiment invitée. Donc, les seules fois où j'étais avec elle, ben, on faisait des conneries et... On se tapait, on se donnait des coups de poing, on se donnait des coups de pied.
Et tu te rappelles un peu le sentiment que t'avais?
Ouais, ça c'est sûr, j'ai toujours le même sentiment des fois, quoi. Ben, le fait qu'on m'humilie. Elle m'humiliait, quoi. Par exemple, j'étais avec mes frères, avec mes cousins, mes cousines. Et... Elle disait des mots qui rabaissent. Résultat, ben, je pouvais pas, quoi. Je vais pas la laisser me rabaisser. J'arrive pas à dire stop. Parce que si je dis stop, je vais m'énerver, mais de façon verbale. Ben, le fait de donner un point, ça arrête directement. Ça va mettre à la dispute. Pourquoi tu m'as frappé? Alors que si je dis s'il te plaît, tu peux arrêter. Elle va me dire, ben, pourquoi? Je rigole juste. Et ben, là, je vais dire, ben, arrête parce que... Et là, ben, il va falloir que je justifie. Résultat, ben, ça va faire sortir le sentiment. Je sais très bien que je suis agitée, que des fois je vais être violente, que des fois je vais trop parler, que des fois je vais parler fort, que des fois je vais faire ci, que des fois je vais faire ça. Et là, ça va me dire, ben, oui, je sais, je suis pas normale. Et là, ça va craquer.
J'aime pas parler. Pour toi, quand tu donnes un point, genre, c'est pour que la personne elle s'arrête, ouais. C'est ça?
Ben oui, ça veut dire stop.
Mais justement, moi, ce que j'allais te dire, en fait, en donnant un point, par exemple, à moi, ça va pas marcher. Moi, au contraire, je vais faire que... empirer les choses.
Bah, je m'en fiche, ça empirer les choses, mais ça empire pas les choses de cette façon-là. Après que je t'ai foutu le point, est-ce que t'as reparlé de mes problèmes?
Bah non, mais parce que...
Bah voilà, après je m'en fiche du reste. Tant qu'on parle pas de ces problèmes-là.
Oui, mais parce que ça m'a fait mal, tu vois.
Ça t'a fait mal, mais au moins t'as arrêté de me faire mal.
Ok, mais pourquoi tu penses que c'est les jeunes en particulier qui sont concernés par la violence?
Parce que je pense que c'est un manque de maturité. Moi, je sais que j'ai passé des façades difficiles et tous les adolescents n'ont pas eu des obstacles à confronter, à part leurs petits problèmes.
Bah, j'étais à la DAS. Mon père a divorcé avec ma mère et ma mère est partie. Mon père ne pouvant pas nous élever, nous a placés. Au début, quand j'étais jeune, je me disais, bon, il a peut-être pas pu, j'allais pas plus loin que ça. Mais je me rends compte que, bon, il aurait pu très bien agir, que, bon, même s'il pouvait pas nous élever, il aurait pu quand même nous voir. Et que ça prouve qu'il n'a pas été adulte quand il fallait. Je pense qu'avoir un enfant, c'est une responsabilité. Et lorsqu'on ne peut pas y faire face, on fait pas d'enfant, c'est tout. Mais bon, je sais aussi que si je me trouve en face de lui, ça va faire au moins 6 ans que je l'ai pas vu. J'irai pas l'insulter ou quoi que ce soit, il a peut-être eu des problèmes, mais il veut plus nous voir. Et c'est pour ça que je réfléchis beaucoup plus, et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi je suis pacifiste. J'aime pas me battre, la fille elle voulait se battre avec moi, j'ai pas voulu. Pas parce que je me sentais inférieure, parce que je sais que la guerre ça sert à rien, et que c'est pas par la force qu'on peut régler tout un tas de problèmes, mais en parlant.
J'ai toujours été avec mon groupe d'amis et personne ne s'est moqué de moi. Parce que quand même, il faut tenir tête. Il faut être respecté avec ce qu'on dit. Et c'est beaucoup mieux. On est plus respecté avec ce qu'on dit qu'avec notre force. On peut faire peur, et on peut ne pas être respecté en même temps. Donc ça sert à rien. Je pense que c'est vraiment ce qu'on voit dans les quartiers, hein. Qu'il y a beaucoup de gens qui cultivent quelque chose de très physique, une voix très virile aussi.
Bah, c'est une autre forme d'intégration, je dirais. Parce qu'ils sont, un peu perdus, quoi. La jeunesse est un peu perdue.
Ne pas reconnaître l'agressivité qu'il y a en soi présente un danger. Multipliée par le groupe ou portée par la foule, elle devient une force destructrice. La libération explose, aveugle. À un niveau individuel, si je ne reconnais pas l'agressivité qui m'anime, alors c'est l'inhibition.
Est-ce que toi, tu te souviens du dernier mot que tu as appris ?
Je pense que c'est ineffable.
Ce qui veut dire ?
Une pensée ineffable, c'est une pensée qu'on ne peut pas... Enfin, c'est ce qui m'arrive là en ce moment, qu'on n'arrive pas à développer. C'est quelque chose qui nous permet de nous exprimer, mais c'est en même temps une grosse barrière. Je pense qu'il faut beaucoup lire. Faut s'informer, en fait. Si y a un mot familier qu'on ne sait que dire de cette manière, bah, faut chercher pour pouvoir le dire de manière plus soutenue. Faut discuter aussi avec des personnes qui ont acquis du vocabulaire, qui savent parler, en fait.
Donc plutôt des adultes, alors ?
Ouais, mais même des jeunes.
La plupart des adultes, en tout cas dans mon lycée, ils nous mettent en fait dans des cases.
Est-ce que toi, tu discutes beaucoup, par exemple ?
Oui, mais avec des personnes de mon milieu.
Par exemple, un jour, un prof à moi, il m'a demandé où tu habitais. Je lui ai dit, j'habite dans le 20e à Saint-Blaise. Il m'a dit, ah oui, tu habites dans un logement social. Est-ce que tes deux parents sont divorcés ? Je lui ai dit, qu'est-ce que tu me racontes, là ?
Je sais pas, les jeunes sont catalogués, il faut dire, En fin de compte, ils les connaissent pas. Enfin, c'est comme partout, il y a toujours eu des gens un peu stupides et puis des gens qui s'intéressaient à d'autres choses.
C'est pas parce que j'habite à Saint-Blaise que je suis obligé d'avoir des problèmes familiaux. Je m'entends très bien avec ma famille. Et les deux, trois fois où ça m'est arrivé, non, je me suis énervé. Je me suis dit, wesh, c'est quoi ça ?
Par exemple, mon frère, il est rentré le soir, enfin, quand même assez tard. C'était vers 2h du matin. Et il est rentré à pied jusque là où il voulait aller. Il s'est fait arrêter par un quart de flic. On ne lui a même pas demandé ses papiers. On l'a aussitôt, l'ont senti comme ça. Puis il dit oui, il sent. Alors, aussitôt, il a réalisé que c'était parler du hashish.
Bah déjà, hier, ce qui m'est arrivé, on était posé avec mes potes, là, dans notre quartier. Et on parlait même pas fort, hein. On parlait doucement. Et les gens, ils ont appelé la police.
Ils lui ont même pas demandé ses papiers, c'est lui qui a dit aux flics que vous voulez mes papiers. Alors ils ont dit oui, ils l'ont fouillé, tout ça. Enfin, il y a eu un truc incroyable, il s'est même déshabillé, tout ça.
Et la police sont venus, ils ont dit ouais, on nous a dit que vous faisiez du bruit, que vous faisiez un clip de rap ou je sais pas quoi. On faisait rien du tout, on était juste en train de parler. Moi je te le dis, si on aurait crié, je t'aurais pas raconté cette histoire. On faisait rien du tout, on parlait normal. Il était 23h, un truc du genre. On était quatre, personne ne faisait du bruit. Et en fait, les gens, on dirait, ils ont peur de venir nous parler. Ils viennent nous parler, on va pas les insulter, on va leur répondre normalement. Tu vois comment je parle, comment mes potes y parlent, on n'est pas bêtes. On sait dire, ouais, désolé si on a fait du bruit. On dirait, ouais, il y a toujours on dirait un écart entre les jeunes et les gens, on dirait qu'ils pensent que, je sais pas, on est agressif. Je sais pas, c'est bizarre.
Je sais pas, on dirait qu'ils sont jaloux. Les adultes, ils se sont fabriqués une société, ils se sont fabriqués tout un tas de trucs. Et puis, nous, si on dit quelque chose, on n'a encore que des bébés, quoi. On sait pas s'exprimer, alors qu'on ressent très bien au fond de nous-mêmes. Puis ils tiennent, par exemple, aux choses. Ils tiennent à une maison, ils tiennent à une voiture, ils tiennent à un meuble, alors qu'un jeune, en fait, ça s'en fout pas mal. Alors, eux, ils veulent rien renverser, rien abîmer. C'est ça que je reproche aux adultes, leur besoin de possession, leur bloc, tout. Ils sont méchants. Puis ils ont un air méchant de toute façon.
Ça m'est arrivé quand
J'étais au musée sur Paris. J'essayais de pas trop m'exprimer comme d'habitude, c'est-à-dire grossièrement, pour pas que les gens autour pensent que je suis vulgaire. C'était des gens qui venaient pas de mon milieu.
À quoi ça se voyait ?
Leur tenue, leur façon de marcher, tout simplement. Ils sont... Je sais pas si c'est le bon mot, mais je dirais gracieux. Mais c'est pas une grâce dans le bon sens du terme. Ils essayent de montrer qu'ils viennent d'un milieu riche.
Si, c'est avec mes amis. Je vais toujours parler avec mes expressions, avec de l'argot. Quand j'ai l'habitude de parler comme ça, et bah, souvent ça sort comme ça alors que j'ai pas fait exprès. Si c'est un entretien d'embauche, par exemple, tu parles avec de l'argot à ton patron, il va se dire, mais lui, il est pas professionnel, il sait pas bien parler. Il parle avec de l'argot comme les langages de cité, des trucs comme ça, en gros. Moi, par exemple... En fait, dans le 16e, ils ont plus avantagés sur certains plans, mais dans les quartiers populaires aussi, on a notre force. On a notre force et on peut prouver à des gens qui croient que les quartiers populaires est destiné qu'à la délinquance, qu'on peut réussir nous aussi, dans la vie. On peut être plus fort qu'un enfant qui a grandi dans le 16e.
Michel, là-dessus.
Je veux dire que la délinquance, c'est une tentation quotidienne et que n'importe quel adolescent peut... Il peut y avoir recours à un moment ou à un autre, justement par le besoin d'argent.
Excuse-moi, le problème, bon, si on peut parler de vol et de délinquance, on va rétablir une petite vérité qui est que je vais voir, disons, Giscard d'Estaing, je vais lui parler, je vais lui dire bonjour Giscard, tu es là avec ton train de vie.
Non, tu vas lui dire bonjour monsieur le président, ça sera mieux.
Oh, ça dépend. Ouais, donc il est là avec son train de vie, fastueux, il va en Iran et tout ça, monsieur, il a ses avions et tout. Je vais lui demander son effort physique qu'il fait pour avoir tout ça. Et je vais voir, par exemple, mettons un déménageur quelconque. Et je vais évaluer les deux richesses, les comparer. Et je voudrais demander s'il n'y a pas un vol quelque part et où est la délinquance là, à ce niveau-là. Je ne sais pas si je m'exprime bien.
À l'époque, Robert a 18 ans. Il en a aujourd'hui 60. Toi, comment tu te vois plus tard ?
Comment je me vois, c'est différent de comment j'ai envie d'être... C'est bête ce que je veux dire, mais je me vois dans la galère. Et j'ai envie d'être dans un bureau, en train de prescrire des médicaments à des patients.
C'est-à-dire que, par la force des choses, de voir mes parents vivre, de voir mes sœurs, de voir
le... tous,
la situation sociale qu'on avait, ça m'a fait toujours peur, cette question de...
On pense tous à l'échec.
De réussir ou de ne pas réussir.
Et moi, je pense souvent à l'échec, donc je me dis peut-être que je serai dans la galère... dans 5-10 ans.
C'est quoi être dans la galère ?
Ne pas avoir un métier stable. Pour moi, c'est vraiment ça. Toujours un métier stable pour ensuite, je sais pas, acheter une maison. Je me vois pas aller chez le banquier et lui dire je fais ce travail, dans un mois je vais faire ce travail, dans l'autre je vais faire ce travail. Elle va me dire ah non, on va pas pouvoir vous accorder de crédit, monsieur.
Et vous, du haut de vos 18 ans en 1987, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus ?
On pense surtout à s'amuser, je pense. Parce que 18 ans, bon, 17 ans pour nous deux, c'est dur de décider de se lancer dans 4-5 années d'études pour ensuite faire un boulot qui va nous prendre toute notre vie.
Je pense qu'on est conscient de la chance qu'on a, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir à choisir tout de suite, avoir justement la possibilité d'attendre, d'être sûr, de vouloir ce qu'on va faire. C'est vraiment une chance et c'est le fait de pas rechercher un salaire immédiatement, de pas avoir besoin d'argent immédiatement qui entraîne ceci. En effet, ce qui prime avant tout, c'est la fête, quoi. Les moments de détente et les moments où on se retrouve, où on discute et on va pas parler boulot à ce moment-là.
On se préoccupe pas tellement du travail plus tard parce qu'on appartient à un milieu assez aisé. On y pense, mais on s'en inquiète un peu parce que bon, le problème du chômage, il est quand même considérable.
Est-ce que tu par exemple, t'envisages de faire des études à Paris ou tu envisages de...
Ouais.
Qu'est-ce que tu voudrais faire ?
Une prépa littéraire.
Ah bah, tu vas être dans le bain, là.
Ouais.
carrément. Comment tu te projettes là-dedans?
Bah déjà, je m'attends à ce que à rencontrer des personnes de ce type. Et j'espère avoir leur vocabulaire aussi, hein, leur niveau. Je pense que je vais pas être à l'aise au début. Mais j'ai pas envie qu'ils pensent que je suis la fille qui vient de banlieue et qui a pas appris autant qu'eux dans sa scolarité.
Moi, ça ne me gêne pas, mais je sens très bien que mon expérience des autres est incomplète à cause de ça. Parce que j'ai été, avant d'être à l'école haïtienne, dans une école communale de la rue Hamelin, où là, c'était vraiment les fils de plombiers.
Je pense que je vais devoir travailler plus pour rattraper ce manque de culture que eux. Ils ont eu naturellement, on va dire. Et j'ai peur de ne pas me souvenir d'où je viens en étant plongée dans un milieu qui n'est pas le nôtre et qu'on se soit approprié les codes de ce milieu.
Quoique les Colossiens ne sont pas uniquement des gens très riches, on ne peut pas nier qu'il y a quand même une différence fondamentale, ne serait-ce que dans les distractions. Mais enfin, j'ai certains amis qui sont banlieusards ou qui viennent d'autres écoles, et je sens très bien que leur éducation est complètement différente de la mienne, du fait que moi, j'ai des passions qui s'orientent plutôt vers la musique et la politique, et qu'eux s'orientent plutôt vers le football et le cyclisme.
En fait, c'est pas forcément l'origine, on va dire, sociale des gens qui compte, c'est après comment ils sont formatés dedans, quoi.
Mais donc toi, t'as l'impression que quelle que soit ton origine, une fois que t'es plongé dans un bain, ça se ressent plus trop.
Si, ça se ressent, mais bon, bah, tu te fonds dans la masse, ouais. La manière dont tu parles et tout, en fait, elle vient naturellement selon, bah, ce qui t'intéresse, l'ambiance dans laquelle t'as grandi, dans laquelle, enfin, les gens avec qui tu traînes, tu construis tes idées, les gens à qui tu t'identifies, tout ça. Bah là, ta manière de parler, tout ça et tout, elle vient naturellement. Donc en fait, ouais, je sais pas, en fait, c'est compliqué, je sais pas si t'as le choix ou pas.
La façon dont je les vois fait que je peux choisir ou non d'être comme eux. Si finalement je me rends compte que ça me plaît comment ils sont, je pourrais plus facilement les imiter. Mais si au contraire j'ai toujours ce cliché d'eux, ce sera plus compliqué. Faudrait pas que je continue à les mépriser comme ça si je veux vivre avec des gens comme ça. Faudrait que je fasse comme eux en fait. Que je les imite. Ce sera pas vraiment moi. Mais je pense qu'au bout d'un moment ça va se faire tout seul en fait. À force de côtoyer ces personnes-là, ça va former un nouveau bout de notre personnalité.
Vous venez d'entendre Tout fout le camp, une série documentaire de Manon Prigent.
Sur arteradio.com. Réalisé par Charlie Marcellet.
De retour sur Radio Campus Tour, on vient d'écouter Arte Radio, donc ça vient d'Arte Radio, ça s'appelle Tout Full Camp, c'était le quatrième épisode, le dernier épisode de cette série Jeunes de toutes les époques, Unissez-vous, un documentaire de Manon Prigent. Merci beaucoup à elle et j'espère que cette série vous a plu. Vous l'avez écouté toute la semaine et voilà, c'est une rediffusion, un reportage disponible sur Arte Radio dans cette émission pré-enregistrée, rien à voir avec les rediffusions, car c'est inédit pour moi de vous le diffuser sur Radio Campus Tour. Tout de suite, pause musicale. Dans cette émission, on va écouter un artiste qui s'appelle Yuxek et avec son titre Beyrouth, ma bête Mout.
Voyez-vous, ma bête moute.
De retour sur Radio Campus Tour après cette pause musicale, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve pour la fin de cette émission, la conclusion. J'espère que vous avez passé un bon moment à mon écoute et à l'écoute de ces différents reportages. Nous avons écouté donc le dernier épisode, l'Arzac des femmes face à l'armée, l'épisode 3, ainsi que Tout fout le camp, épisode 4, Jeunes de toutes les époques, Unissez-vous, pareil, le dernier épisode de cette série. Merci beaucoup d'avoir été attentif à cette série tout au long de cette semaine d'émissions pré-enregistrées. Je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, une bonne suite d'écoute et une bonne suite de programmes sur cette belle radio qui est Radio Campus Tour. Dès demain, on se retrouve pour une rediffusion encore une fois de Multicampus et dès la semaine prochaine, je vous le garantis, dès lundi, le retour des émissions en direct avec des invités, ce vendredi même, une émission inédite de Multicampus, il me semble. Ce n'est pas une rediffusion, c'est une émission inédite. Et lundi à venir, lundi 8 mars, journée mondiale pour le droit des femmes, et donc Radio Campus Tour se mobilise pour vous proposer des émissions en lien et en thème. Je vous invite à être à l'écoute, à suivre les réseaux sociaux de Radio Campus Tour parce qu'il y a de très beaux projets qui arrivent. Fini pour moi de discuter, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous donne rendez-vous donc, vous l'avez entendu, dès lundi pour de nouvelles émissions sur nos ondes, sur le 99.5 FM. A bientôt.
Radio Campus Tour, 99.5.
Et sur internet, radiocampustour.com.